Vous écoutez On lit pour vous.
Les ponts de glace sur le Saint-Laurent. Une histoire fabuleuse. Par Pierre Hébert, paru dans la revue Reflet, décembre 2019. Au 19e siècle, on utilise l'expression pont de glace pour désigner la formation de glace entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent. Ce phénomène particulier a marqué l'imaginaire et l'identité des habitants jusqu'à la mise en service des premiers brise-glaces. Il faut une bonne dizaine de jours de froid cinglant pour que les ponts de glace se forment entre Québec et Lévis. Malgré le mouvement des marées qui font décoller les glaces riveraines lors d'un redout, ces ponts réussissent à se figer tel un casse-tête dès que le mercure descend assez bas. Jusqu'à maintenant, les historiens en ont répertorié un peu plus de 74. Les premières mentions écrites de ces traverses hivernales nous viennent des Jésuites. Le 2 janvier 1633, le père Paul le Jeune constate que les glaces s'accumulent, se détachent et se lient pour former un grand pont sur lequel on peut marcher. Dans ses mémoires, Marie de l'Incarnation raconte que les Autochtones se déplacent sur le fleuve pour aller communier à Québec. Toutes les paroisses riveraines du fleuve en aval de Québec ont été témoins de cet englacement spectaculaire. À Lévis, lorsque le pont prenait, c'était la fête. Un brave s'aventurait sur les glaces avec sa canne avant d'annoncer la bonne nouvelle. Les autorités municipales de Québec et de Lévis se partageaient la tâche de préparer et de baliser un chemin d'une trentaine de pieds, 9,2 mètres, sur lequel on pouvait se déplacer en carriole. Cette voie de communication éphémère favorisait les échanges commerciaux et, automatiquement, le prix des denrées baissait au marché Champlain de Québec. Parmi les ponts de glace les plus célèbres, retenons celui de Cap de la Madeleine et sa légende du pont des Chapelets. Afin d'accélérer la construction de son église et la traverse de matériaux depuis Saint-Angèle, le curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine aurait fait réciter des prières par ses paroissiens pour que le pont de glace se forme. Dans les îles de Sorel, cette traverse hivernale a été vitale pour de nombreux insulaires avant 1930. Un autre pont célèbre est celui où l'on décide de faire passer un chemin de fer et une petite locomotive entre Montréal et Longueuil de 1880 à 1883. Un projet fou qui fit sensation à l'époque. Les ponts de glace ont aussi marqué l'imaginaire, comme en témoignent de nombreuses œuvres picturales. Le pont de glace entre Québec et Lévis est bien connu puisqu'il faisait la chronique quasi hebdomadaire des journaux de ces deux villes. C'était un lieu de divertissement formidable pour les citadins. De petites cabanes appelées caboulots étaient installées au milieu de Saint-Laurent et servait de débit de boissons au grand désespoir du curé de Lévis. Ce grand terrain de jeu permettait de jouer au curling, de faire du patin et de se promener en carriole. La prudence était de mise, car les accidents étaient fréquents. On a aussi reconnu l'importance économique du pont de glace, puisqu'il permettait le transport de bois de chauffage, de foin et de viande de boucherie congelée. Au début des années 1850, l'Assemblée législative du Bas-Canada s'y intéressa et demanda des devis pour trouver un moyen de faire prendre le pont plus rapidement. Les ponts de glace ont aussi marqué l'imaginaire, comme en témoignent de nombreuses œuvres picturales. Mentionnons celle des peintres James Patterson Cockburn, Cornelius Grieghove et Clarence Gagnon. Pour en savoir plus, Yves Hébert, Les ponts de glace sur le Saint-Laurent, Québec, les éditions GID, 2012, 150 pages. C'était Les ponts de glace sur le Saint-Laurent, une histoire fabuleuse, par Yves Hébert, paru dans la revue Reflet, décembre 2019.
Ménopause, les meilleurs exercices à faire. Un texte de Maureen Alouchak paru le 24 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine. L'entraînement musculaire est plus important que jamais lorsque la ménopause se présente. Les explications d'une entraîneuse pour femmes. S'il y a une période de la vie où on devrait faire de l'exercice, c'est bien pendant la ménopause, affirme d'emblée Samantha Monpetit-Youin, conseillère en santé physique qui se spécialise dans l'entraînement des femmes d'âge mûr. Si elle encourage la pratique de tout type d'activité sportive, elle suggère tout de même de privilégier certains exercices spécifiques qui nous aident à mieux accomplir nos tâches quotidiennes. Tous les adultes commencent à perdre de la masse musculaire vers l'âge de 30 ans, et cette perte s'accélère pendant la ménopause en raison des fluctuations hormonales qui l'accompagnent. Moins nous avons de muscles, moins nous brûlons de calories, ce qui accentue une autre conséquence attribuable à la ménopause, la prise de poids. Si l'entraînement musculaire peut aider à affiner la taille, ce n'est pas le but ultime, selon Samantha Monpetit-Youin. On bouge plutôt pour mieux gérer son stress, pour demeurer actif, pour mieux dormir et pour se sentir plus confiant, explique-t-elle. Sa suggestion? 3 séances d'entraînement de 30 minutes par semaine incluant des haltères, dédiées au renforcement de l'ensemble du corps. Et nous devrions compter 1 ou 2 jours complets de repos entre chaque séance. Lorsqu'on donne la priorité au repos et à la récupération, on gagne vraiment en efficacité, assure-t-elle. Je ne vais à la salle de sport que 3 jours par semaine et je suis plus forte que je ne l'ai jamais été. Pour s'y mettre, voici 4 exercices qu'elle recommande à toutes ses clientes plus âgées. 1. Le squat. On se tient debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. On transfère son poids vers l'arrière sur ses talons et on contracte la ceinture abdominale. En gardant la poitrine soulevée et en regardant droit devant soi, on abaisse les hanches vers le bas en gardant bien les genoux au-dessus des orteils. On descend jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. On revient ensuite à la position debout. On suggère de faire 3 séries de 10 à 20 répétitions, au moins 3 fois par semaine. 2. L'épaulé jeté. On se tient debout, un poids dans chaque main, les pieds écartés à la largeur des hanches, les genoux souples, les coudes pliés et les mains à la hauteur des oreilles. On allonge les 2 bras au-dessus de la tête en gardant la ceinture abdominale bien tendue et les épaules droites. On revient à la position de départ et on recommence. On suggère de faire 3 séries de 10 à 20 répétitions au moins 3 fois par semaine. 3. Les pompes. On commence sur les orteils ou les genoux en position de planche, les bras tendus et légèrement plus écartés que les épaules. On abaisse lentement le corps jusqu'à ce que la poitrine rase le sol. On évite de creuser les hanches et de bomber les fesses. On revient en position de planche et on recommence. On suggère de faire 3 séries de 10 à 20 répétitions au moins 3 fois par semaine. 4. Le soulever de terre. Debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur, on saisit un haltère dans chaque main. On pousse les fesses vers l'arrière en pliant légèrement les genoux et on bascule les hanches vers l'avant en gardant le dos plat. On fait glisser les haltères le long de l'avant des jambes légèrement pliées jusqu'à ce qu'on sente un léger étirement à l'arrière des cuisses. En gardant le dos plat et les abdominaux contractés, on pousse les hanches vers l'avant et on revient en position debout. On suggère de faire 3 séries de 10 à 20 répétitions, au moins 3 fois par semaine. C'était « Ménopause, les meilleurs exercices à faire », un texte de Maureen Alouchak, paru le 24 octobre 2023 dans le magazine Châtelaine.
Tourisme autochtone, 5 suggestions d'activités. Un texte de Mario Dufresne, paru le 24 août 2023, dans le magazine Virage. Près de 9 personnes sur 10 ont affirmé avoir un intérêt à participer à une activité de tourisme autochtone, selon un sondage léger réalisé l'année dernière. Or, un peu plus de la moitié des répondants ont admis n'avoir jamais franchi le pas. Si vous vous reconnaissez dans ces statistiques, le moment est peut-être venu d'oser partir à la rencontre des Premières Nations et des Inuits. Pour vous aider, voici quelques suggestions d'activités culturelles, gastronomiques et sportives. Les pow-wow pour tous les âges. Lorsque vient le temps de choisir un périple, les propositions sont nombreuses et variées. Mais le pow-wow demeure l'activité à privilégier pour s'initier aux différentes cultures des peuples autochtones. C'est l'occasion par excellence de rencontres et de rapprochements entre autochtones et non-autochtones, explique Laurence Lenné, conseillère en communication et événements chez Tourisme Autochtone Québec. C'est aussi une sortie fantastique avec les petits-enfants, d'autant que lors de ces événements, on sera à même de constater l'importance accordée aux aînés chez les peuples autochtones. Le tout dans une ambiance à la fois festive et sacrée. C'est pourquoi il est bon de savoir que le caractère traditionnel des célébrations comporte un certain protocole et demande le respect. Il y a des pow-wows dans toutes les communautés, surtout l'été. Le dernier au calendrier a lieu à Akwesasne, les 9 et 10 septembre. L'appel de la nature. Si c'est le dépaysement total et la communion avec la nature qui vous interpelle, plusieurs formes de tourisme sont proposées. Cela va du séjour dans une pourvoirie à la randonnée pédestre, en passant par le camping et l'hébergement typique. La plupart se font en compagnie d'un guide autochtone. Nul besoin d'être chasseur ou pêcheur pour participer, même dans les pourvoiries. Les amateurs de photographie y sont d'ailleurs très bien accueillis. On trouve des pourvoiries administrées par des membres des Premières Nations et Inuits aux 4 coins de la province. À titre d'exemple, si vous êtes à la recherche de paysages à couper le souffle, le camp La Lucarne Pourvoirie Anishinaabeg à Laniel, sur la route 101, peut alors s'avérer une destination de choix. En plein cœur de l'Abitibi-Témiscamingue, 1600 km de rivage le long du lac Kipawa vous attendent, que ce soit pour des expéditions de chasse et pêche, des excursions en canot ou bien simplement pour profiter de la plage. Camplalucarne.com 819-634-2800. La cuisine pour créer des ponts. Pour Laurence Lenné, la gastronomie est un très bon moyen de créer des ponts entre les cultures. La cuisine autochtone, c'est avant tout un bouquet de saveurs qui met en valeur les produits régionaux en respectant le calendrier des saisons et les traditions culinaires ancestrales. Il est possible de déguster la cuisine régionale autochtone dans bon nombre d'établissements, mais on ne peut pas ignorer le restaurant, la traite de l'hôtel-musée Première Nation à Wendake, sans doute le plus réputé. L'établissement propose un menu exclusif aux couleurs et traditions des communautés autochtones. Restaurantlatraite.ca 418-847-2012. Cap sur les musées. Notre périple ne pourrait être complet sans un arrêt dans l'un des nombreux musées autochtones de la province. Mais, s'il faut en choisir un, le musée des Abénakis à Odanak, en Mauricie, s'impose. Il s'agit de la première institution muséale autochtone à avoir vu le jour au Québec. Situé en bordure de la rivière Saint-François, le musée propose des expositions sur des thématiques autochtones, ainsi que le sentier pédestre Tolba, tortue, aménagé le long de la rivière. Facile d'accès, il s'étend sur 1,2 km et nous permet de nous renseigner sur les nombreuses plantes médicinales de la région, autant que sur les diverses espèces animales qui y vivent. Muséeabénakis.ca 450-568-2600. Vous pouvez aussi planifier une visite du musée Huron-Wendat à Wendake, à une quinzaine de kilomètres de Québec. Exposition permanente, visite de la Maison longue nationale Ekion Kiesta et jardins thématiques sont entre autres proposés. 418-847-2260. Apprendre avant de partir. Peu importe le choix d'activité de tourisme autochtone, il est bon d'en savoir un peu sur la culture de la communauté qui va nous accueillir avant de plonger dans l'aventure, comme l'indique Laurence Lainé. Car c'est bien de 11 nations autochtones réparties dans tous les territoires du Québec dont il est question. Chacune avec son mode de vie, ses coutumes et ses traditions. Et pour en savoir plus, tourismeautochtone.com se révèle un site de choix pour commencer à se renseigner. Vous y trouverez une panoplie d'informations sur les différentes régions de la province et les nations qui y habitent. C'était Tourisme autochtone, 5 suggestions d'activités, un texte de Mario Dufresne, paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage.
Refuser de marcher à la queue-leu-leu, féerie yvonienne dans Querelle de Roberval de Kevin Lambert. Un article de Laurence Veilleux paru dans le numéro 10 de la revue Muse Médusa. Résumé. Kevin Lambert explore l'ambivalence entre le soin et la violence dans Querelle de Roberval 2018. Une fiction syndicale qui, progressivement, se transforme en fantaisie brutale. Querelle, héros du roman, est inspiré par le séduisant marin éponyme du drame Querelle de Brest de Jean Genet, 1947. Lorsqu'une tablée de corsaires l'ensorcelle, c'est une autre figure littéraire qui émerge chez le personnage, celle de José Yvon, grande fée des étoiles ravagées. C'est cette transfiguration de la fée opérée par Lambert qui est analysée dans le présent article à l'aune de l'œuvre yvonienne et des théories queer. Article. Les gays, comme plusieurs minorités qui vivent en marge de la culture hétéronormative, ont toujours fait cela. Se coller à des figures qui n'ont pas été pensées comme queers, qui s'adressaient d'abord à un public imaginé comme straight. Gérald Godet, parlons de nuit, de fureur et de poésie, entretient avec Kevin Lambert. pour un peu plus de fluidité. Fair is foul and foul is fair. William Shakespeare, Macbeth.
Entre la figure de la bonne fée et celle de la sorcière, il n'y a qu'un pas à franchir. Michelet n'hésite pas à percevoir l'une comme l'évolution naturelle de l'autre. Nature les a fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins endort, trompe les mots. Jules Michelet, la sorcière. Bonnes ou mauvaises, la fée et la sorcière sont intrinsèquement dangereuses car elles peuvent déjouer la trajectoire du destin. Kevin Lambert explore cette ligne fragile entre le bien et le mal, le soin et la violence dans « Querelle de Roberval », 2018, une fiction syndicale qui, progressivement, se transforme en fantaisie brutale aux limites de la pornographie gore. Querelle, héros de ce conte cruel, est inspiré par le séduisant marin éponyme du drame « Querelle de Brest » de Jean Genet, 1947. Lorsqu'une tablée de corsaires l'ensorcelle dans une taverne montréalaise, une autre figure associée à la littérature homosexuelle émerge, celle de José Yvon, poète de la contre-culture québécoise et grande fée des étoiles ravagée. Chez Yvon, les revendications féministes, queer et sociales, cohabitent avec une fascination déstabilisante pour la violence sous toutes ses formes. Un rapprochement semble s'établir entre les personnages de Lambert et les sorcières sales et brisées violentes d'Yvon. À l'aide des théories, des études de genre, ainsi que de l'histoire européenne des fées et des sorcières, à travers la littérature, cet article s'engage à dévoiler la féerie yvonienne présente dans « Querelle » de Roberval. Querelle, un personnage yvonien. De partout au lac Saint-Jean, les jeunes garçons affluent devant la chambre du bel ouvrier fraîchement engagé à la scierie du lac incorporé de Roberval. Nimbé de mystère, Querelle intrigue les Robertvalois Robertvaloises, comme sait le faire, en littérature québécoise, un étranger qui débarque en région. Le vocabulaire emprunté au conte merveilleux que Lambert emploie pour le décrire fait de lui un être surnaturel. C'est un monstre fabuleux, une créature malveillante qui dévore les adolescents. On brosse son portrait comme on imagine les personnages de contes cruels et terrifiants. Querelle est une fée déguisée en ogre magnifique, une fée qui ne doit rien aux frères Grimm, puisant plutôt son héritage chez José Yvon et sa gang, toutes des fées mal tournées. Extrait. À la fois ternie et endurcie par la vie, cette figure cardinale que constitue chez Yvon la fée mal tournée refuse l'asservissement féminin qu'incarne la fée du logis et la fée marraine, exclusivement dévouée au service d'autrui. La fée d'Yvon est une fée déchue, mauvaise, qui pisse sur les étoiles et fourre pendant que ses enfants brûlent. Camille Anctile Raymond, nous sommes des éventreuses. Les Amazones de José Yvon dans Filles commando bandées. La dimension queer du féminisme yvonien qui accueille la prostitution, le transsexualisme, hormonal ou pas, dans sa lutte, m'amène à considérer le féminin dont parle Anctile Raymond, si déçu,
comme un concept non essentialiste. Un féminin étroitement lié à la conception, qu'en ont les féministes matérialistes, qui considèrent les femmes en tant que classe, une classe sociale inférieure dans une société hétéronormative. En rejetant les stéréotypes de genre associés à la figure de la fée, gentillesse, dévouement maternel, ange du foyer, les fées yvoniennes refusent cet asservissement, s'installent en dehors des codes binaires des genres et, en ce sens, s'approchent du queer. Le médiéviste Claude Lecourteux affirme à propos de la sorcellerie qu'il ne faut jamais oublier qu'elle forme le pendant négatif de la féerie. Dans les contes pour enfants, les fées sont auprès des berceaux et les sorcières vivent seules au fond des bois. Cependant, la distinction entre la figure de la bonne fée et celle de la méchante sorcière n'est pas toujours claire. C'est le cas lorsqu'on pense à la fée Morgane des légendes arthuriennes ou à la maléfique fée Carabosse de Marie-Catherine d'Aulnoy, chez qui la femme, en exprimant sa colère, tombe dans l'obscurité. Chez Lambert, la fée bienveillante est suspecte. Sa gentillesse dissimule un venin dangereux. Les matantes, les bonnes fées marraines, c'est connu, lorsqu'elles se penchent sur le berceau des derniers-nés, prennent toujours un malin plaisir à les pincer avec leurs ongles vernis, à les étouffer doucement d'un doigt dans la gorge. Querelle, en raison de son appétit sexuel insatiable, de sa réputation de prédateur, de son désir de croquer la chair de ses amants et de sa phénoménalité de bonhomme setteur, évoque aussi la figure de l'ogre. Réputé hideux et stupide, l'ogre, dans l'imaginaire des contes féeriques, se dévoue entièrement à satisfaire son estomac. Les pulsions sexuelles, le cannibalisme ainsi que l'appétit pour les enfants sont des traits qu'on accorde également à la sorcière. Selon Charles Perrault, les ogres, personnages de conte, sont proches des fées que l'étymologie rattache à Fata, les destins qui, comme les parques, ont le pouvoir de donner la vie ou la mort. Alors que la distinction entre la fée et la sorcière n'est pas nette, il semble que des rapprochements sont probables entre ces dernières et l'ogre. En convoquant des éléments rattachés autant aux fées qu'aux sorcières et aux ogres, Kevin Lambert développe une identité fluide de chez Querel, fait de lui le héros queer d'un conte féerique dont on a broyé les cordes pour en détruire la morale patriarcale. C'est notamment ce potentiel de travestissement qui permet de reconnaître l'influence de la fée mal tournée d'Yvon chez le personnage de Lambert. L'œuvre d'Yvon éloigne toute conception dichotomique de la sorcellerie et de la féerie et regorge de docteurs, sorcières et assassines, réunis par défaut, rassemblés dans leur marginalité. Les contours qui définissent ces deux figures s'entremêlent. Yvon place au cœur de ses livres des identités et pratiques sexuelles, transidentité, lesbianisme, travail du sexe, pornographie, etc., habituellement invisibilisées et dévalorisées. Méchantes, maganées, meurtrières, les fées d'Yvon savent que personne ne les sauvera de personne. Que peuvent-elles faire? Dévoiler la souillure du monde en exposant leurs vices? Répandre la conscience comme une malaria fiévreuse et addictive? Les fées d'Yvon sont lucides. Elles n'espèrent pas guérir. Ça n'arrivera pas. Mais veulent que les sorcières, astrologues, alchimistes, ne meurent plus de froid, d'inconfort. Celles dont la provocation dénonce trop clairement l'existence de la répression souhaitent que leur existence soit reconnue, que par ce dévoilement brutal, la société prenne conscience de ce qu'elle rejette. Ce même processus de reconnaissance se retrouve chez Querelle qui, en affichant de manière frondeuse ses pratiques sexuelles, confronte les préjugés d'une société homophobe. Vous écoutez « Refuser de marcher à la queue leu-leu », féerie yvonienne dans « Querelle de Roberval » de Kevin Lambert. Un texte de Laurence Veilleux, paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue « Muse Médusa ». Détourner le destin. Il est venu le temps des prédictions réalisées. Il est venu le temps des malédictions nouvelles. Je veux dire que, réellement et matériellement, les prophéties anciennes seront réalisées, celles du lieu plus lointain que les origines. Enfin, auront raison les sorcières et les devins forcés de se cacher. Kevin Lambert, Tu aimeras ce que tu as tué. Avec Querelle de Roberval, Lambert applique la démarche du queering à l'écriture. C'est-à-dire qu'il fait émerger une figure queer dans un milieu qui ne l'est pas, dans ce cas-ci l'environnement ouvrier et politique en région au Québec, notamment grâce au personnage de Querelle. Extrait. Tout comme la grève, la vie sexuelle de Querelle dérange le cours normal des choses. Toutes deux, par le caractère public qu'elles acquièrent, font événement. Le personnage de l'ouvrier Querelle, à la virilité travaillée, ainsi que les trois garçons qui ont le nom de leur rang, remettent en jeu les représentations habituelles de la sexualité ouvrière. Dans la littérature québécoise, celle-ci, historiquement, associe le travailleur ou le chômeur et sa virilité perdue, colonisée ou obtenue, homme indépendant des femmes, à la qualité de ses rapports hétérosexuels. Rachel Nadon, Les esthétiques démocratiques en question, représentation du travail et mémoire ouvrière dans La mémoire du papier et Querelle de Roberval. Pour Lambert, en assumant son attirance sexuelle pour les garçons, Querelle met au jour la constitution sexiste et hétéronormée du genre intrinsèque à son milieu de travail. Querelle dénonce, à sa manière, ce que rejettent aussi les fées yvoniennes, l'ennemi capitaliste qui est aussi les préjugés des gens. Plus encore, il espère changer le destin de ses jeunes amants malgré l'indifférence dont il peut faire preuve à leur égard. Entendons-nous, Querelle fourre par égoïsme d'abord et non par bonté. Il choisit ses amants à l'aveugle sur Grindr, ne prononce aucune parole d'amour, jouit de ses petits slot boys, frêles, et rêve de dévorer, avec ses dents pointues, la peau tendre des adolescents. Toutefois, derrière le gouffre infini de sa jouissance, Querelle offre à ses garçons, comme à lui-même, la confirmation de leur existence, la légitimité de leurs désirs. Il incarne pour ses jeunes amants un horizon envisageable hors d'un univers où l'homosexualité est un défaut impardonnable. En couchant avec eux, Querelle se saisit, l'instant d'un soir, d'une vie dont personne ne veut et la fourre d'un sens dont elle était dépourvue. Chez Lambert et Yvon, l'homosexualité et les sexualités perçues comme déviantes empêchent les personnages d'atteindre l'acceptation sociale. Ces derniers doivent eux-mêmes prendre en charge, en tant que communauté, la conquête de leur légitimité. Dans Querelle de Roberval, les pères sont homophobes et leur haine se nourrit à même le refoulement du désir incestueux qu'ils entretiennent envers leur fils. Querelle incarne la possibilité d'un autre mâle qu'eux dans les arrières de leurs petits. Pour protéger ce fantasme et leur virilité, les pères prêchent contre une société en processus de féminisation, tandis que les fils, pour conjurer la convoitise des pères, s'accrochent à la bite de Querelle et s'évadent en préparant clandestinement leur vengeance. À l'instar de José Yvon et des fées stigmatisées, Kamikaze et Commando qu'elle regroupe dans ses livres pour faire entendre le hurlement de leur colère, Querelle rassemble dans ses draps son armée, une foule mêlée de garçons et de sacrilèges du même âge, afin de leur montrer patiemment à cracher sur les pères qui les limogent, sur une société qui les occulte. Lorsque ces garçons désenchantés quittent son appartement, Querelle est heureux. Même s'il sait qu'on ne sauve personne et déteste les héros, Querelle est certain, en parfaite contradiction avec lui-même, de sauver le monde juste un peu, un coup de bassin à la fois, persuadé que la brutalité de son sexe est ce dont ils ont besoin pour continuer à vivre. Cette mission de reconnaissance qui anime Querelle, lorsqu'il raconte ses exploits sexuels à l'usine, rappelle la provocation que cherchent les fées yvoniennes lorsqu'elles exposent leur vie marginale. Être investi d'une mission n'arrive pas du néant. On en hérite, on porte en soi l'obligation morale de transmettre ce qui nous a été donné. Le mot « mission » est emprunté au latin « missio », qui désigne l'action d'envoyer. Ainsi, on est chargé d'une mission, envoyé en mission par quelque chose ou quelqu'un. Celle de Querelle lui a été transmise dans une taverne crasseuse à Montréal alors qu'il était lui-même adolescent et s'offrait au regard vicieux d'une assemblée de piliers de bar. Les corsaires avaient tenu un conciliabule, en jugeant d'après ses gestes et son air, en mesurant son esprit et en posant des questions indiscrètes sur la sexualité bourgeonnante des jeunes chéris, les bonnes fées avaient décidé du sort du garçon en filant sur le rouet de leurs vicissitudes le destin de ses passions, découpant le modèle de ses amours futurs d'après un patron usé et démodé, mais adoré par chacun des vieux homos. Querelle serait un mâle. Les écumeurs de la rue Sainte-Catherine allait le dresser, lui vanter la position de top, lui apprendre, dans le sexe, à être le meneur. Kevin Lambert, Querelle de Roberval. Cette scène centrale du roman de Lambert convoque le moment où, dans Querelle de Brest, le marin jette les dés au bar La Feria afin de savoir s'il couchera avec la tenancière ou bien s'il sera sodomisé par son mari. Elle rappelle aussi le topo des contes merveilleux où les fées se penchent au-dessus des berceaux pour modeler le destin des nouveau-nés. L'offrande inaugurale des fées corsaires consiste donc à décider du rôle sexuel du jeune garçon, top ou bottom. La naissance ici est figurée par le passage de Querelle du statut de garçon à celui de mâle. En décidant pour lui que Querelle serait un mâle, genre vraisemblablement associé à la position de top pour ces pirates de la masculinité, ceci nous rappelle que l'assignation d'une personne à la naissance à un genre sexué est une forme de prophétie qui agit sur nous en permanence et que nous accomplissons comme une évidence. En plus de formater son rôle sexuel, les corsaires se font artisans de sa virilité et musclent son corps freluquette, toujours dans une vision binaire des genres, où le faible est associé au féminin et le fort au masculin. Suivant les arguments de Monique Wittig dans « La pensée straight », Cette catégorisation totalitaire des genres installe une vision binaire des sexes et fixe leur rôle selon des normes genrées. Plus encore, pour le transphilosophe Paul B. Preciado, ce système de catégorisation réduit la sexualité à la génitalité, alors que la sexualité concerne toutes les zones du corps. Le don, ou serait-ce plutôt la malédiction, des fées corsaires emprisonne Querelle dans un rôle hormonormatif masculin. Cette division binaire des genres l'oblige dorénavant à consommer sa féminité par procuration. Pour devenir le mâle qu'il est, Querelle a expulsé hors de lui toute part de garçonnet, mais il a besoin de sa moitié perdue. Cette référence au mythe de l'androgyne dénote un besoin de cohabitation fluide entre les genres chez Querelle. Sa moitié perdue féminine est vitale pour son accomplissement sexuel, car jouir d'autrui, c'est à la fois jouir de soi, sentir vivant en soi ce qu'on a perdu. Vous écoutez, refuser de marcher à la queue leu-leu, féerie yvonienne dans Querelle de Roberval de Kevin Lambert. Un texte de Laurence Veilleux, paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue Muse Médusa. Tout est chaos, pleureuse et désenchantement. Aussi, c'est en vain que les fées pleurent et se réjouissent, car rien n'est grand, sinon ce qui vient de l'âme pour aller à l'âme. Lucie, Félix Faure-Goyot, La vie et la mort des fées. Dans l'homme, comme dans le cochon, rien ne se perd. Angelica Montanari, Cannibale, histoire de l'anthropophagie en Occident. La critique du milieu ouvrier et syndical de Querelle de Roberval met en lumière l'échec de la formation d'une communauté, du côté des patrons comme des employés, puisque sous les enjeux collectifs d'une grève se dissimulent les ambitions personnelles des grévistes. À la scierie de Roberval, les apparences, tout comme les allégeances des employés, sont souvent trompeuses. Dans ce contexte, le concept d'accompagnement subit un renversement. Étymologiquement, accompagner, c'est partager quelque chose avec autrui ou prendre soin. Avancer ensemble avec bienveillance. Chez les personnages de Lambert, aider l'autre consiste aussi à décider pour lui. Lutter avec l'autre devient parler à sa place. Ainsi, Judith, secrétaire de la scierie, gréviste, est-elle une taupe et moucharde à son patron les actions prochaines du groupe? Fauteux, conducteur d'opération, représentant syndical, néglige les idées de ses camarades, emmurés dans les convictions nationales syndicalistes de sa jeunesse. Bernard, ouvrier, conspirationniste, gréviste, élabore une théorie du complot à propos de ses compagnons de grève devant les micros de Radio-Canada. L'hypocrisie des grévistes mine la solidarité syndicale et finit par entraver une véritable révolution sur le plan ouvrier, tout comme l'hypocrisie des pères empêche un changement du paradigme sexuel effectif à Roberval. Le jour, ils se forment aux lois de leur groupe. Le soir, ils se cachent pour flirter avec les loups. Mais les fées meurent quand on cesse d'y croire, et les sorcières passent aux flammes des bûchers inquisitoriaux quand on découvre leur vraie nature. Pendant que la grève s'éternise et tourne au vinaigre pour les employés de la scierie, les forestiers accumulent la colère envers les grévistes qui ralentissent leur job. Depuis la fin du printemps, les travailleurs forestiers de Desbiens, qui sont embauchés en sous-traitance à l'usine, haïssent les grévistes. La tension explose un soir alors que les deux groupes se rencontrent sur un terrain de baseball désert. La bagarre éclate. Jean-Marie, forestier, surnommé Le Tas, s'attaque à Querelle et brise d'un mot l'envoûtement viril de son adversaire, son armure, avant de lui briser la nuque, profitant de sa faiblesse découverte. « Ma crise de tapette !» Le mot tombe, vole jusqu'au plexus solaire de Querelle, s'y enfonce par à-coups, par des secousses de marteau-piqueur, jusqu'à ce que sa carapace fende, éclate, jusqu'à ce que la chair soit atteinte, rouverte. Querelle abandonne le Mac qu'on lui connaît et redevient le premier Querelle, le fif, la tapette, la diva de 17 ans, celui qu'il s'était forcé de conjurer sous la direction de quelques sorciers bénissant ses charmes virils, l'imprégnant de maléfices stoïques et mâles. Kevin Lambert, Querelle de Robert Val. Avant d'en venir au coup, Jean-Marie affaiblit sa victime par la puissance de ses mots. Querelle tombe parce qu'il redevient tapette. Son bourreau lui ôte son aura de mâle pour attaquer sa féminité et pour ce faire, utilise l'injure afin de renverser les termes qui définissaient Querelle depuis l'enchantement des fées corsaires. Celui qui n'avait pas l'air fifi devient une crise de grande salope sous l'injure de Jean-Marie. Cette scène du roman de Lambert explicite violemment ce qu'analyse Judith Butler dans « Excitable Speech » alors qu'elle étudie le pouvoir performatif des discours haineux. Si recevoir un nom c'est aussi recevoir la possibilité d'exister socialement. Être insulté, to be called a name, peut figer ou paralyser la personne ailée et peut donc fragiliser ou carrément détruire la légitimité de son existence. Lorsque Jean-Marie tabasse Querelle, ce sont tous les pères de Robert Val qui frappent pour conjurer le fléau qui assaille les fils vulnérables. Ce fléau, rappelons-le, c'est la féminisation des hommes. L'association entre la puissance des mots et la puissance d'agir est établie alors que frapper et conjurer semblent constituer une seule et même action, celle de la destruction. Le corps de Querelle est abandonné à la nuit sur le terrain de baseball déserté. Jésabelle, débardeuse, barmaid, gréviste, secrètement amoureuse de Querelle, le retrouve et plante un pieu en son cœur pour écourter l'agonie de son ami. Le cycle des pleureuses débute. Elles arrivent d'abord sous la forme de 200 chérubins hologramme des beaux garçons possédés par le bel ouvrier, qui sanglotent, se lamentent devant la dépouille de leur amant merveilleux. À travers les silences de leur chant, on n'entend que la voix suraiguë de la pleureuse, sa douleur sonore. Jésabelle et le cœur funèbre envolé, trois garçons accourent vers le cadavre de Querelle pour le fourrer dans sa blessure, clin d'œil au vers mythique d'Yvon. Cette image revient d'ailleurs dans le premier roman de Lambert, « Tu aimeras ce que tu as tué », alors qu'un adolescent rêve de frapper son amant là où ça fait mal, là où ça guérira jamais. Dans les deux cas, la blessure est un sexe envisagé comme une plaie dans laquelle on peut déverser son fiel. Vous écoutez, refusez de marcher à la queue leu-leu, féerie yvonienne dans Querelle de Robert Val de Kevin Lambert. Un texte de Laurence Veilleux paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue Muse Médusa. ces trois garçons émouvants, trois bombes, sont d'inséparables bêtes nocturnes. Par leur nombre, leur anonymat, ils projettent l'ombre fantastique des trois sorcières de Macbeth. Porteurs d'infections merveilleuses, de maladies anachroniques, ils ne prédisent pas la mort, ils la transmettent. Ils s'aiment, se défoncent, face et cul dans le sous-sol d'un duplex de briques brun à l'abri du monde. Leur histoire se déroule en parallèle du récit principal qu'ils accompagnent malgré eux. Ils ignorent tout des luttes syndicales, mais la destruction les excite. Brian Ferland, patron de la scierie, les engage pour mettre le feu chez des grévistes un soir de Noël, et ils le font, sans aucune conscience politique, guidés par la pure joie des gestes interdits qu'ils posent. Ils bandent en repensant au bruit de verre cassé, au cri paniqué de la salle communautaire quand le feu a pogné. Ces trois garçons semblent être l'unique communauté incassable du roman de Lambert. Toujours présentés en groupe, soudés parce qu'un est la continuité de l'autre, et ainsi de suite, dans cet ordre, le premier, le deuxième, le troisième, à savoir que c'est la taille de la queue qui détermine la position de chaque membre du trio. Soudés jusqu'à ce que les adultes les séparent pour les punir et que la distance ainsi installée entre eux les ravage, désunis, ils ne sont plus magnifiques. Ce sont des pleureuses inquiétantes, sorcières, lorsqu'ils se mettent au sabbat et exécutent une danse autour du cadavre de querelle, chantent, se tiennent les mains, crient. Martyrs jusqu'au terme du roman, ils diffusent leur suicide collectif sur Internet en envoyant chier le monde entier. La scène du meurtre de querelle opère un basculement dans le récit qui explorait pourtant jusqu'alors les limites de la violence. Les personnages semblent avoir atteint un point de non-retour. Comme chez les fées mal tournées d'Yvon, l'abus est leur seul espoir de prospérité et de jouissance. Si la fiction de Kevin Lambert dérive vers la fantaisie pornographique gore, c'est peut-être pour dénuder entièrement ces personnages, pour atteindre leur vérité, car la pornographie est un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. N'ayant plus rien à perdre, après la scène du terrain de baseball, les grévistes survivants débarquent chez Brian Ferland, l'assomment et, pour faire bonne mesure, assomment sa conjointe. De son côté, Jézabel noie doucement leurs enfants sous l'eau de la piscine. Les grévistes célèbrent ensuite leur libération en embrochant de la barbe au cul le patron de la scierie et sa femme pour s'en faire un méchoui. Festin anthropophage, fête, infanticide, sexualité outrageuse et nécrophilie, Lambert rassemble quelques éléments clés des sabbats sataniques au dénouement de son récit. Au sabbat, tout arrive à rebours puisque Satan est le maître de l'inversion, les éléments de pouvoir de la société se renversent et la morale aussi. Enfin, ce sont les ouvriers qui écrasent les maîtres. Conclusion. Au terme du récit de Lambert, Jézabel ignore la raison de ses larmes lorsqu'elle le lit. « Ma victime, en tant qu'amie, était, ma douleur l'indique, feuillage plus ou moins à l'extrémité de mes branches, muni de mes sèves. » Ces mots, tirés de Querelle de Brest, signifient que l'amour de Querelle le marin pour sa victime fait d'elle son prolongement. Par son crime, il n'offre pas son âme au diable, mais quelque chose d'aussi précieux, un ami, un morceau de lui-même. Peut-être que Jézabel pleure car elle se reconnaît dans le héros de Genêt. En tuant Querel, Jézabel la fait renaître en elle. Seule dans sa cellule, elle rêve à son ami disparu. Au matin, elle se réveille avec, au ventre, une envie de peau et de sueur, et se touche en imaginant les corps ombragés des filous de Roberval. L'histoire peut alors recommencer. Querel de Roberval est le copier-coller du héros de Querel de Brest de Jean Genêt, déplacé dans un décor québécois. De matelot solitaire, comparable à l'ange de l'Apocalypse, aux plus beaux ornements que sont ses muscles et son sexe, Querel devient l'ouvrier mystérieux qui fascine ou choque les gars de l'usine tant la déviance dans sa bouche semble honnête et naturelle. En s'appropriant le personnage de Genêt, Lambert fait de son créateur son compagnon d'écriture et scelle cette union en pastichant le titre de son roman. Par ses personnages, ses références intertextuelles, par ses propositions stylistiques qui convoquent Genêt, mais aussi l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, le roman « Lolita » de Vladimir Nabokov et l'œuvre de José Yvon, par ses nombreuses références aux contes classiques et quoi d'autre encore, Querelle de Roberval nous montre, à de multiples reprises, que Lambert n'écrit pas seul. Chacune des œuvres qu'il convoque porte un parfum de scandale, affiche des sexualités atypiques au regard d'une société hétéronormative, transsexualité, prostitution, homosexualité, pédophilie, et renforce l'odeur capiteuse qui émane de son roman. Ces écrivains et écrivaines agissent comme des fées dans l'écriture de Kevin Lambert, tissent avec lui son histoire et l'inscrivent dans une lignée littéraire insoumise et rebelle. Car fées mal tournées, elles et ils le sont certainement. C'était « Refuser de marcher à la queue leu-leu », féerie yvonienne dans « Querelle de Roberval » de Kevin Lambert. Un article de Laurence Veilleux paru dans le numéro 10 de la revue « Muse Médusa ».